midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Midi pile. Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin avec Pascal CV pour surtout vous informer, un petit peu vous divertir. Dans cette émission du midi, de midi à 14h, comme à l'habitude, on a un beau panel. On va avoir Éric Lefebvre, le député de la région d'Arthabasca. Non, pas au provincial, parce que c'est Alex Boissonneau, au fédéral, avec le Parti conservateur du Canada, qui va être avec nous aux alentours de midi 45. Dossier Curam, on vous en a parlé très tôt à Boulevard 102.1. C'est un dossier... Peut-être qu'il va devenir pire que Satellite au niveau canadien en informatique. Alors, il va venir nous parler de ceci, M. Lefebvre, le député. On va l'avoir au téléphone. On va avoir pas une, mais deux fois du Mathias Turcotte, Pascal CV.
Oui, j'ai bien hâte de l'accueillir, entre autres, pour le petit Vox Pop.
Oh
fait,
oui,
hein?
Vox Pop, est-ce que vous savez ce qui vous attend à compter de demain pour le transport en commun en ville qui est détournée en raison des travaux du tramway?
Là, j'ai mis la petite vidéo que le Bruno Marchand a fait en...
Oui, puis je l'ai rentré dans la machine, on va l'écouter tantôt.
On va l'écouter en collaboration avec le RTC. Mais c'est il y a 2 heures que ça a été publié. Moi, j'aurais pris ça cette semaine. J'en aurais pris là, presque aux demi-heures pour être sûr que tout le monde soit avisé.
Exactement. On a parlé hier avec Alicia Despins, d'ailleurs, c'est sur blvd.fm, du mauvais timing de cette mission du maire Marchand. Au niveau de l'Alberta, la semaine avant que les travaux commencent du tramway, la semaine de budget provincial. Donc, c'est vraiment pas le bon timing pour Bruno Marchand de partir. Et également, Mathias, on a nous parlé d'un dossier d'escalier, parce qu'on a su hier, Pascal, durant notre émission, tu nous as rapporté que l'escalier du Faubourg, ça allait coûter 1,4 million refaire en entier. Mais là, il y a plein d'escaliers à Québec qui ont de la difficulté. Donc, il y avait conférence de presse tout à l'heure, 11h. Mathias va venir nous parler de ceci également. Puis, Éric Ouellette, notre spécialiste en conflits internationaux, va nous parler aussi, notre spécialiste en conflits militaires, aux alentours d'une heure. Évidemment, suit dans quelques minutes le duo Farnell-Morissette-Lambert-Drainville pour leur discussion. Mais avant tout ça, Pascal Cévé, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je suis vraiment désolée de commencer avec ça, mais j'ai peur de l'oublier parce que c'est pas, ça fait pas partie de mes nouvelles normales, mais Chuck Norris qui est décédé.
Ben oui!
Hein, je veux pas insulter personne en oubliant, je le sais, Farnell me fait des gros yeux. Voyons, t'aurais pu oublier ça. Décédé à 86 ans, c'est l'acteur américain Chuck Norris. On apprenait ça aujourd'hui, ce matin. On savait qu'il avait été hospitalisé hier, mais le roi des arts martiaux, celui qui est plus fort que la mort même, parce qu'il devrait ressusciter là, si on en suit son cursus, là, qui a incarné au petit, au grand écran, le défenseur musclé, celui qui défendait les valeurs de l'Amérique, ben, malheureusement, il est décédé, donc assez soudain. Mais c'est sur ses réseaux sociaux que sa famille a annoncé tout ça, entre autres sur Instagram. Il a été victime d'un malaise, puis il avait été hospitalisé, comme je vous disais, à Hawaï hier. Malheureusement, ben, il en est décédé. Je sais, vous êtes éploré aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec vous. Je ne voulais pas l'oublier de façon négative. Là. On s'entend, là? C'est juste parce qu'il y a plein de nouvelles, entre autres. On est revenu sur la femme qui a été retrouvée inconsciente près de la Grande Allée. Elle est décédée, malheureusement. Donc, le mystère plane toujours. Là. On parlait d'une femme inconsciente dans une entrée du secteur Montcalm, secteur assez cossu, décès qui avait été confirmé ce matin, mais on est toujours en enquête. Donc, la cause demeure nébuleuse. Là, on ne savait pas, parce qu'on n'est pas capable nous l'indiquer, si la femme de 42 ans présentait un état de consommation, des marques de violence ou si elle avait subi un malaise. On aura plus de détails, j'ai l'impression, dans les prochains jours. Ce qu'on sait, c'est que ça ne devrait pas être criminel comme cause. Voilà, c'était pour les nouvelles de
nos sympathies à la famille.
Absolument, toujours. On en parlait, le fiasco SAQ-CLIC du gouvernement fédéral sur le projet Curam, dont la facture est déjà passée de 1,75 à 6,6 milliards de dollars, n'a pas fini de faire couler de l'encre. Et la presse rapportait ce matin qu'Ottawa ignore l'ampleur des coûts du fonctionnement du système de prestations Curam. Puis une fois qu'il va être terminé, après 2031, bien, peut-être qu'on va avoir enfin une idée, mais on mentionne que la facture devrait encore grimper considérablement bien avant la fin du déploiement. RTC, qui c'est sûr que dans la une, on s'attend à ce que les trajets modifiés en raison des travaux liés au projet de tramway aient un impact assez limité sur ses utilisateurs. C'est ce qu'on a dit en entrevue à Radio-Canada avec le porte-parole du RTC qui expliquait qu'avec les choix de parcours qu'ils ont faits et les mesures préférentielles qui ont été mises en avant avec la ville, on ne devrait pas voir de gros impacts, là, autant sur les heures de pointe que dans les parcours habituels. Mais quand même, la clientèle n'était pas tout à fait en accord avec ça. Il y en a plein qui ignorent encore que ça va être touché et de la manière dont ce sera touché dans leur vie. Éducateur de la petite enfance de la région de Portneuf, Christopher Bouchard, qui a été accusé d'avoir agressé sexuellement 7 enfants âgés de 3 à 9 ans. Je pense que c'est important de le redire, ça aussi, en manchette.
Merci beaucoup, Pascal Sévin. On passe au segment discussion entre Farnell Morisset et Lambert Drainville. Mais si on apprenait ce matin que François Legault va rester comme député jusqu'à la fin de son mandat, député de l'Assomption, s'il avait décidé de quitter, il n'y aurait pas eu d'élection partielle en raison du court délai avec l'élection générale. C'est rare, je suis cynique dans la vie, mais je me suis dit, coudonc, il fait tout ça pour son 300 000 piastres. Les gars, vous en pensez quoi?
Ben oui.
OK, vas-y, Lambert, j'avais oublié d'ouvrir le micro de Farnell. Vas-y. Il le fait pour 300 000?
Ben oui. Je veux dire, ben oui, ben non. Là. Écoute, on parle d'un gars, là, ça fait... Tu sais, puis ça, écoute, je te dis, là, quand je vois quelqu'un, puis juste que tu aies un doute, Jeff. Le gars, ça fait 25 ans qu'il est là comme député. Il était ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, premier ministre pendant 8 ans. Ça fait un demi-siècle qu'il se dédie à travailler pour le Québec, pour les Québécois. Le monde chiale quand un élu quitte en plein milieu de son mandat. Rappelle-toi Joël Boutin, rappelle-toi Pierre Fitzgibbon.
Ah oui, en effet.
Et ils ont bien
André Laforêt.
André Laforêt, on pourrait faire la liste. Là. et les gens ont bien raison de chialer, surtout quand ça se fait aussi rapidement que Fitzgibbon et Boutin après quelques mois seulement de l'élection. Surtout que ça coûte un demi-million de contribuables. C'est François Legault et son gouvernement lui-même qui ont adopté les nouvelles règles pour dire, ben là, si vous quittez en plein mandat, à moins que ce soit pour des raisons de santé ou des raisons familiales, vous n'aurez pas droit à votre prime.
Mais ça, mais Lambert, c'est pas de mauvaise foi de dire il voulait juste sa prime. C'est la nouvelle politique du jour, ça. On s'entend, là, François Legault qui décide. Il va sûrement aller faire plus de coucou dans l'Assomption qu'il n'en a jamais fait. Mais vu qu'il avait tout instauré ça, c'est pas pour suivre un peu la logique de ce qu'il a demandé à ses propres collègues?
Ben exact. Il s'est fait élire pour un autre mandat de 4 ans, puis il va respecter son mandat de 4 ans. Puis là, le monde chiale parce qu'il s'en va avant, parce qu'il décide de pas s'en aller avant son mandat de 4 ans. Voyons donc, là, il va respecter son mandat. Puis ben honnêtement, là, sa prime de départ, là, on s'entend-tu qu'il l'a pas volé? Là? Il ne l'a pas volé. 300 000 $ merci pour le service rendu, bonne chance pour la suite.
Ouais, ben moi je suis d'accord avec Pascal, c'est la nouvelle politique de la journée et je trouve ça désolant que ce soit ça la nouvelle politique de la journée. Ça montre à quel point notre culture politique envers nos attentes, envers nos députés est tellement faible que la nouvelle, c'est que oui, il y a un député qui va finir son mandat. Je comprends, là, c'est pas un député comme n'importe quel autre, je suis d'accord.
Non, c'est
il a été premier ministre.
Mais ça reste... C'est le premier ministre qui va retourner sa banquette arrière, c'est ça qui est spécial.
Ça reste que si on est un électeur de l'Assomption, justement, là, on lui a donné un mandat pour qu'il fasse son 4 ans, puis c'est une nouvelle, on en fait les manchettes que oui, il va finalement faire son 4 ans. Je veux dire, je comprends, encore une fois, oui, il a été premier ministre, mais avant d'être premier ministre, tout le monde, qu'on soit ministre, premier ministre, on est député en premier, on a une responsabilité envers les gens qui nous ont élus en premier. Et puis, ça ne devrait pas être surprenant, ça ne devrait pas être une nouvelle, même si je comprends que ça l'est, que quelqu'un remplisse ce mandat-là jusqu'à la fin.
Quasiment une obligation. Les gars, Jeff aussi, pensez-vous que l'Assomption va le revoir? Là? Est-ce qu'il va retourner un peu plus? Est-ce qu'on voit Lambert, là, toi qui as été en politique, est-ce qu'on voit le premier ministre habituellement dans sa circonscription, habituellement?
Non. Il y a généralement une bonne équipe en circonscription qui ont tu sais, les employés en circonscription ont dans la circonscription du premier ministre généralement ont beaucoup plus de responsabilités parce qu'ils doivent compenser pour le fait que le PM n'est jamais là. Généralement, il va y aller durant la campagne électorale, il va prévoir une journée durant la campagne pour faire un passage dans son comté puis montrer qu'il est quand même là puis que ça lui tient à cœur, mais c'est sûr et certain que en termes de présence dans le comté, c'est certainement dans les députés là, qui passent le moins de temps dans leur comté. Bien honnêtement, c'est un petit peu comprenable là, quand tu es le chef de l'État.
En effet, il a dit qu'il en profiterait justement pour aller voir les électeurs, pour les remercier, compte tenu qu'il avait été absent plusieurs années. C'est un bon geste à faire, ça, Farnell, d'aller remercier son monde?
Oui, je veux dire, je trouve ça juste dommage que ce soit une nouvelle.
T'sais, je ne l'ai même pas mis dans mes manches parce que je me suis dit, je sais qu'on en parle avec vous, puis j'avais la même prétention que toi, Farnell.
Oui, tu sais, je comprends que c'est une nouvelle, parce que c'est en effet une nouvelle, je ne suis pas en train de remettre ça en question, c'est juste que ça montre à quel point nos attentes sont tellement basses envers le rôle de député.
On va changer de sujet, on va aller sur quelque chose qui fait énormément parler, troisième semaine de guerre en Iran, le détroit d'Hormuz qui est encore fermé. Il n'y a pas beaucoup de pétrolier qui passe. C'est 20% de la production mondiale. On écoute Donald Trump il y a deux jours parler de l'OTAN.
Well, we don't need too much help, and we don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it, actually. Very important that we take out the nuclear threat from Iran, and we've done that very strongly, very powerfully. We've wiped out their Navy, wiped out their military in every aspect. Everything is gone. Their leaders are gone.
Tout est réglé en Iran. Les leaders sont morts. J'ai pas besoin d'aide. On va y aller à fond de train avec le pétrole. Mais là, c'est drôle. Deux jours plus tard, se revirent vers les alliés puis ils disent « Hey, pourquoi vous m'aidez pas? » Là, il y a le Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et d'autres pays, sont six au total, qui ont dit « Ouais, on pourrait peut-être aller porter main forte, mais ça reste très nébuleux. » Farnell, Donald Trump est en train de se planter bien raide avec cette guerre-là.
Ben, faut quand même lui donner que c'est vrai que, entre autres, Mark Carney et plusieurs autres chefs d'État à l'international ont salué les attaques, les frappes contre l'Iran. Je veux dire, peut-être que c'est un peu à contre-cœur, mais ça reste quand même vrai.
En effet.
Mark Carney a dit qu'il appuyait les frappes.
Oui, oui, puis dans les faits, il a tué un des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire. Fait que ça, faut
c'est reconnu,
le souligner,
faut le reconnaître.
Que c'est positif.
Alors, M. Trump, quand il dit que ses alliés ont, que l'OTAN, les alliés de l'OTAN ont salué la chose, c'est vrai, mais ça reste que je crois que M. Trump, présentement, est en train d'avoir un dur réveil à la notion de ce qu'on appelle en anglais le « soft power », c'est-à-dire l'espèce de puissance douce, qu'on pourrait dire, la puissance diplomatique qui vient avec le fait d'avoir des bonnes relations avec tes alliés. À ce qu'on sait, la plupart ou presque l'entièreté de l'OTAN n'a pas été avisée que les États-Unis et Israël allaient lancer cette guerre-là avant que ça arrive. Puis après ça, se virer de bord puis demander aux alliés, ouais, venez donc nous aider finalement, tu sais, ça ne marche pas de même. Surtout quand tu as passé la première année de ton mandat à te mettre tes alliés à dos économiquement, à menacer d'envahir certains de tes alliés. Je peux comprendre qu'il y a bien des gens qui disent, écoute, là, on est content que tu vas débarrasser le régime iranien actuel, là, mais gère tes affaires puis on va
ouais,
pas mettre
là,
nos vies.
Les dirigeants des autres pays au Moyen-Orient et dans le Golfe sont vraiment pas satisfaits de pas avoir été informés non plus parce que là, c'est leur puits de pétrole à eux autres qui se font,
ben
qui
oui,
se font bombarder. Là.
L'Iran qui réagit en frappant à peu près tout le monde et n'importe qui dans le coin, je veux dire, c'était très prévisible que les alliés des États-Unis n'aient pas su d'avance que ça s'en venait. Ça aussi, c'est un méchant coup à donner à des gens qui sont supposés être ses amis.
Lambert, 200 milliards de dollars, c'est la demande du Pentagone au niveau du Congrès américain. C'est plus que ce que les Américains ont investi depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Américains ont élu Donald Trump pour pas vivre une guerre. Ça va pas mal à l'encontre de pourquoi ils ont voté.
Il est mieux de se lever tôt en battant pour espérer convaincre assez d'élus de lui donner leur aval pour ça. Parce que présentement, au niveau du Parti républicain, il y a quelques porte-parole, MAGA et quelques élus même qui se sont... qui ont laissé savoir leur mécontentement, mais ce qu'on entend, c'est qu'en privé, là, les gens sont vraiment, vraiment pas contents. The Economist parlait de bouillonner de rage. Effectivement, comme tu as dit, il y en a plusieurs là-dedans qui le supportent d'abord et avant tout parce qu'il a fait campagne sur le fait d'arrêter de se mettre les pattes dans n'importe quel conflit international puis de commencer à se concentrer sur ce qui se passe aux États-Unis. Et là, ils sont complètement en train de l'échapper. C'est les États-Unis, mais c'est pratiquement toute la planète qui est en train de vivre les contre-coups de cette guerre-là. Tu as des Américains qui sont morts, 13 Américains qui sont morts. Tu as des cercueils qui reviennent aux États-Unis. Ça frappe l'imaginaire. Alors oui, il est complètement en train de l'échapper. Et politiquement, là, ça commence, il commence à faire chaud dans la cuisine, si on peut dire ça comme ça. Là. Les Républicains, je pense que les dernières prédictions étaient de 83% de chance à ce qu'ils perdent la Chambre des représentants aux midterms en novembre, et même au niveau du Sénat, alors que pour plusieurs, c'était impossible pour les Républicains de perdre le Sénat pendant la première année de mandat, mais là, on est rendu à peu près à 50-50 les chances à ce qu'ils perdent le Sénat. Écoute, s'il fallait que les deux chambres flippent de côté, ils s'enverraient très, très menottés pour la suite de son mandat d'ici aux prochaines élections. C'est en train de devenir le point tournant de sa présidence, tu sais, puis c'est comme, on dirait que c'est fou de dire ça après tout ce qu'on a vu passer dans les derniers mois, Epstein, ICE, le Venezuela, tout ça. Mais la différence, c'est que dans ce cas-ci, alors qu'au Venezuela, il pouvait prétendre avoir gagné, avoir réussi sa mission, alors que la même chose pour les premières frappes en Iran, dans ce cas-ci, il n'y a personne là, qui pense que ce gars-là il est dans une position gagnante et qu'il accomplit ses objectifs.
D'accord avec ça, Farnell?
Ben oui, tu sais, je pense que l'analyse est très bonne. Donald Trump, dans son discours d'inauguration, disait que c'était son propre barème. Il disait « Nous allons mesurer notre succès par les guerres que nous évitons. » Et puis, le voilà en guerre. Quand il a été élu par la promesse de ne pas embarquer les États-Unis dans des longues guerres, ce qu'il appelle les « forever wars », maintenant, des espèces de guerres qui finissent plus, qui n'ont pas d'objectif final, qui n'ont pas de finalité claire. Quand ça a commencé, ben, de un, c'est même pas clair si le président avait le mandat légal de se lancer en guerre. Il disait au tout début que c'est pas une guerre, c'est une action militaire préemptive.
Mais rendu à 200 milliards, ben, on est pas ça. Mal rendu en guerre.
Mais alors, tu sais, j'imagine aujourd'hui être un membre du Sénat ou du Congrès en général, membre du Parti républicain, puis cette demande-là arrive à mon bureau, 200 milliards pour cette guerre-là. C'est tough parce que d'un côté, tu peux pas arriver dans les midterms ayant perdu une guerre contre l'Iran. Tu te fais ramasser. Mais de l'autre côté, 200 milliards, le message que ça envoie, c'est que ça va pas être 4 semaines comme guerre, comme le président Trump avait promis au tout début. 200 milliards, ça, c'est une longue guerre. Ça, c'est
et des morts aussi.
Et
là.
Des morts, ça, et ça des cercueils qui reviennent. Ouais. Et pendant ce temps-là, le détroit d'Ormuz qui va probablement rester fermé, inaccessible. Ça va être des mois avec les prix du pétrole qui augmentent. Puis éventuellement, ça va se refléter dans les prix de tout le reste. Si tu es un élu républicain présentement, tu es pogné entre deux très mauvaises options. Soit tu appuies un programme de guerre qui va probablement durer jusqu'au midterms, ou tu ne l'appuies pas. Puis là, il faut que tu arrives au midterms ayant essuyé une perte militaire ou au moins pas une victoire aussi complète auquel le public s'y attend contre l'Iran.
Mais on aurait parlé de ça il y a 5 ans. Jamais on se serait imaginé qu'on pourrait être dans un scénario comme celui-ci. Comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un leadership aussi négatif et faible que celui de Donald Trump actuellement pour la suite des choses?
C'est
une leçon qu'on a tirée.
C'est une leçon et je veux dire, je pense que les historiens vont éplucher cette décision-là pendant longtemps. Bon, il y a des questions de timing aussi. C'est sûr que pendant ce temps-là, on est justement, comme Lambert le dit, on n'est pas en train de parler du dossier Epstein, on n'est pas en train de parler de plein d'autres problèmes internes.
Les complotistes disent que c'est pas un addon, là.
Ouais, je veux dire, je veux pas faire ce genre de spéculation-là, mais mettons que c'est certainement un avantage qui est facile à exploiter pour l'administration Trump.
Ouais, on est dans le segment. Oh, excuse-moi, Lambert.
Ah, vas-y, Jeff, je vais rajouter. Ben, en fait, c'est. Je trouve ça un petit peu inquiétant pour la suite parce que là, on parle de tout ça, puis tu sais, tu te mets dans ses souliers, puis on commence à le connaître quand même, là, s'il a été président déjà un premier 4 ans, puis là, il est d'autant plus instable depuis qu'il est revenu à la présidence. Mais c'est inquiétant pour la suite. Là, on sait comment ce gars-là là, est un mauvais perdant, disons ça comme
en
ça.
En effet.
Là, tu sens qu'il est en train de complètement perdre contrôle de la situation. Il a perdu le volant. Comment est-ce qu'il va réagir à ça? Ça, c'est super inquiétant. Est-ce que ça va être Cuba? Est-ce que ça va être les États démocrates qui vont écoper, comme on a vu avec ICE? Est-ce que ce sera un autre coup d'éclat à l'international? Ce sera-tu l'Ukraine? Ce sera-tu le Groenland, le Canada? Tu sais, moi, c'est ces questions-là aussi qui me viennent en tête, puis je me dis, tabarouette, quand il va vraiment sentir que la situation lui a complètement échappé, quelle va être sa façon de réagir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement inquiétant.
C'est des excellentes questions. Et d'ailleurs, ça nous amène au dernier sujet de ce segment discussion. C'est les vendredis de midi environ, midi 25, avec Lambert Drainville et Farnell Morissette à l'émission On en jase. Pierre Poilievre était de passage au podcast, on dit le podcast le plus populaire au monde, celui de Joe Rogan aux États-Unis. Il a défendu justement la position du Canada face aux États-Unis. On écoute l'extrait.
You know, we love Americans as neighbors and friends, but we want to be uniquely and we want to be sovereign as Canadians. It's our country. It's where we grow up. You're a patriot as an American. I'm a patriot as a Canadian. It's where my grandfather arrived. It's where our collective ancestors put on military uniforms and sailed to fight wars. It's where our grandkids are going to live. We're very proudly Canadian. So we're never going to be the 51st state. And I just wish you'd knock that shit off so that we can get back to talking about the things that we can do as two separate but two separate countries that are actually friends.
Il faut que Donald Trump arrête cette bullshit. C'est envoyé au podcast le plus populaire. Un ancien allié de Donald Trump, Joe Rogan. Lambert, Pierre Poilievre, sa visite aux États-Unis est très positive pour son image.
Oui, oui, bien honnêtement, puis je ne l'ai pas écouté au complet, mais le peu que j'ai, la partie que j'ai écoutée, c'est long, c'est quand même 2h40.
Ouais. Oui, puis tu as écouté la partie politique, tu as écouté pas mal tout, parce que le reste, on parle d'arts martiaux. Là. Ça dépend si tu aimes l'entraînement, les arts martiaux.
Non, mais assez intéressant. Écoute, il connaît ça vraiment beaucoup. Là,
vraiment.
Vraiment. Moi, tu le sais, je l'ai reçu sur mon propre podcast. J'ai de la difficulté à comprendre comment il en est venu à avoir, comment lui et son équipe lui ont bâti la réputation qu'il a présentement au Canada sur la scène politique. Quand tu l'entends dans ce contexte-là, puis tu sais, c'est sûr que c'est toujours risqué. Là. C'est le podcast, c'est un podcast d'abord d'un gars qui est très volatile là, dans qu'est-ce qu'il pense, quel sujet il amène, puis les théories du complot, tout ça. Et c'est très long, donc plus c'est long, plus il y a de risques de se mettre les pieds dans un plat. Et c'est le plus écouté au monde, d'autant plus. Rappelle-toi quand il était allé à Northern Perspective, là, le podcast conservateur plus mineur au Canada, puis il avait dit que Trudeau méritait des peines de prison. Là, ça lui était revenu sur le nez. Mais quand, là, il a réussi, je pense, à faire un bon travail de ne pas se mettre les pieds dans un plat. Et je reviens à ce que je disais, je comprends pas... Pourquoi le Pierre Poilievre qu'on voit dans ce balado-là, qu'on a vu quand moi, je me suis entretenu avec lui, qui est bien honnêtement un gars qui est très intelligent, qui a une bonne culture générale, il est beaucoup plus modéré que l'image que plusieurs ont de lui. Fait que je comprends pas c'est quoi la stratégie que son équipe lui ont bâtie lors des dernières élections et qui perdure un peu depuis. Je comprends pas pourquoi il n'est pas juste plus lui-même quand on l'entend parler. Moi, quand j'étais à la Chambre des communes à Ottawa, je me rappelle l'avoir entendu en chambre. J'étais une verte recrue politique, puis je me disais, tabarouette, c'est qui ce gars-là, Parti conservateur, etc. Puis je le trouvais bien impressionnant. Puis c'est comme si depuis qu'il est devenu chef, il a perdu le Nord. Je ne sais pas si c'est lui, son équipe, ou j'imagine que c'est un peu entre les deux. Mais chose certaine, il est mal conseillé, ce gars-là.
Bien, ça parle-tu de la politique en 2026, du genre être un peu plus polarisant, faire plus de vagues pour faire jaser, et donc peut-être de sortir de ses valeurs personnelles pour être capable d'être élu, pensez-vous, les gars?
Bien, ce que j'ai vu, moi, du podcast hier, c'est un Pierre Poilievre qui essayait surtout de dire à son caucus, « Regardez, je suis de retour à mon être modéré. » Parce que Pierre Poilievre, il est à deux doigts de devoir faire face à potentiellement un gouvernement Carney majoritaire. S'il y a d'autres de ses élus qui quittent le caucus ou qui, pire encore, changent vers les libéraux, il va passer à l'histoire en étant celui qui a perdu la position d'opposition d'un gouvernement minoritaire vers une opposition à un gouvernement majoritaire. Alors, je crois que sa stratégie présentement, presque tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de rassurer sa base et son caucus que non, c'est pas un Trumpiste. Non, c'est pas quelqu'un qui est radical. Il a passé, par exemple, quand Joe Rogan a parlé de la théorie que Fidel Castro était le père de Justin Trudeau, il l'a ri un peu puis il a dit non, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, je pense que le signal qu'il essaie d'envoyer, c'est regardez, là, je suis de retour à ma personnalité plus modérée. On peut se parler en nous. S'il vous plaît, là, quittez pas le caucus en allant chercher l'espèce de conservateur léger qui est Mark Carney en comparaison à moi.
Moi, je peux l'être moi aussi. Les gars, c'est toujours un bonheur de vous parler à chaque vendredi dans ce segment de discussion. Je crois qu'on a fait le tour de trois très gros sujets d'actualité. Je vous souhaite un excellent week-end.
Toi aussi, vous autres aussi, tout le monde.
Vous aussi, la gang.
Et on est choyés, on en jase de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, les boys. Lambert Drainville, Farnell, Morisset, segment discussion à chaque vendredi, de midi environ, midi 25. Dans un instant, Boulevard 102, on va parler des travaux du tramway, mais d'un autre angle, c'est-à-dire les services du RTC qui sont modifiés. Mathias Turcotte a mis ses bottes, son manteau, sa tuque, ses mitaines, puis il est allé parler aux gens. Aux arrêts aujourd'hui, à savoir, êtes-vous informé? Vox Pop de Mathias Turcotte, au retour de cette courte pause à Boulevard 102.
Jusqu'à 14h.